Kiosque Magazine. Vendredi 20 février 2015, bienvenue à tous pour cette édition de Kiosque Magazine. Des sujets culturels, des sorties à faire en fin de semaine. C'est Geneviève Patterson à l'animation aujourd'hui avec vous, en compagnie de nos chers co-animateurs Charles Roy et Jennifer Vigneri. Bonjour Charles.
Bonjour.
Bonjour. Salut. Jennifer. Alors aujourd'hui, Jennifer, tu nous parles de beatbox notamment.
Oui, effectivement, pour la musique, je vais vous parler d'un duo britannique incroyable qui mélange deux styles, le beatbox et le blues. On en reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je vous emmènerai également au théâtre pour une pièce qui s'appelle Débris, c'est au théâtre de la Licorne. Je parlerai également du festival Montréal en Lumière qui va démarrer ce week-end. Et puis, je vous emmènerai au cinéma avec un retour au sommet pour le film Astérix.
Super. Et de ton côté, Charles?
Paris Tristesse, le nouvel album de Pierre Lapointe. Si l'aurore, nouvel album de Marie-Pierre Arthur. Victor Hugo, Mon amour, c'est une pièce de théâtre qui sera jouée à Québec. Je vous parle aussi du 7e Festival d'art souterrain de Montréal et des sorties à faire avec son ado. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la justice sociale et c'est une journée pour agir et réfléchir sur les inégalités dans notre monde. Mm-hmm. Et je voulais souligner ça ce matin, mais je me posais la question, est-ce qu'il existe une justice culturelle? Est-ce qu'il devrait en exister?
C'est intéressant que tu lèves cette question-là, Charles, parce qu'en fait, je pense qu'en ayant l'émission Kiosque, on rend une certaine justice à la culture, justement, en lisant des sujets culturels
très juste.
Accessibles autrement. De mon côté, des cuisiniers engagés de la neige éternelle et on fait un petit tour aussi en cinéma. Bonne émission!
Et donc, je vous en parlais pendant la présentation des titres. Le duo britannique Edmund Shaker est de passage en ce moment dans la métropole pour faire connaître un son unique, résultat d'un croisement entre le beatbox et le dirty blues. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le journal du 24 heures de ce mardi 17 février. En résulte un son viscéral, empreint d'une belle intensité dans lequel se mélangent dubstep, rock'n'roll et musique roots. L'histoire de la formation commence il y a 6 ans, dans un camping en Nouvelle-Zélande. Andy Balcon, à la guitare et à la voix, et Dave Crow, percussionniste vocal, parcourent le monde à la recherche de nouvelles aventures lorsqu'ils se rencontrent au cours d'une partie de mini-golf. On est resté debout toute la nuit, cette nuit-là, et on a enregistré des idées, et le jour d'après, on commençait à jouer dans la rue ensemble, se souvient Andy. Après cet épisode, les acolytes se sont toutefois séparés pour continuer à parcourir le monde chacun de leur côté. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'ils se sont retrouvés en Suède, où ils prennent la décision de former Edmund Shaker. Dès lors, le tandem, qui à la base ne faisait qu'improviser, a commencé à travailler les textes et à composer des titres en bonne et due forme. « Ça fait 4 ans qu'on est sur la route. On a tout laissé, nos maisons, nos copines », fait remarquer Dave. En résulte, en mars 2013, un premier EP, Check Rhythm, confectionné à l'image des deux musiciens. L'album a été enregistré en Nouvelle-Zélande, en Suède et en France. Sans domicile fixe, ces derniers ont adopté un mode de vie complètement nomade, n'ayant pour seul avoir qu'un sac de voyage. « En 10 ans, j'ai arrêté de voyager pendant 3 ans et Andy 2 ans », fait remarquer Dave. Les deux hommes, âgés de 26 et 27 ans, expliquent avoir tenté l'autre style de vie et ne pas avoir apprécié leur expérience. Toutefois, à la question « Où se voit-il dans 5 ans ?», ils répondent sans hésiter qu'ils s'imaginent avoir une maison et bien sûr continuer à faire de la musique. Par ailleurs, le nom de l'EP « Check Rhythm » fait référence à ce mode de vie particulier. Ça découle de Edmund Shaker. Le mot représente une philosophie, un mode de vie, le nôtre au même titre que le capitalisme ou d'autres courants de pensée dans le genre. Après s'être arrêté pour une première fois à Montréal au Divan Orange l'année dernière, le duo est de retour pour offrir une performance tout à fait gratuite ce mercredi à la Casa del Popolo et il assurera la première partie de Stevie le lendemain à l'Astral. Voilà, donc je pense que c'est une belle découverte musicale à faire. Je rappelle leur nom, c'est Edmund Shaker.
Je dis à ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. pénétrer autrui, le jour, la nuit, sans cesse et sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. Avec toi, te faire crier comme les stars du X au cinéma. Recommencer une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept fois. La vie est morte, la vie est sale. Qu'on joue les méduses glaciales. Quand on est deux yeux dans les yeux, allécher des jours malheureux. Les soirs de pluie, les matins gris, sous le soleil de midi. Jamais les bombes, les grenades, ni la suie me feront sortir du lit.
Who I say, who I do? I got the fire, so I'm making my dreams come true. No, I'm just a powerless fool. But I like you open so I can see the view. Cool, how did they live? How did they breathe? The gift of penetrating means nothing but a plan to see in me. Just feels good in your body too. What if I quit walking out? I'd like to be talked to.
Look into my eyes as I look.
À ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesser, sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour.
C'était La sexualité de Pierre Lapointe avec le groupe Random Recipe. Charles, est-ce que Pierre Lapointe va encore chanter à propos de la sexualité bientôt, là, en lien avec un peu la Saint-Valentin?
Ah, je sais pas. J'ai pas entendu l'album, mais ce sont des reprises qui est sur ce nouvel album, Paris Tristesse.
Okay.
Ça a été enregistré à Paris. Geneviève Bouchard nous en parle dans Le Soleil. La même journée, elle a écrit un autre article sur Marie-Pierre Arthur que je vais vous lire à la suite. Ça a été paru le 16 février. Personnalité forte de la chanson d'ici, Pierre Lapointe navigue avec autant d'aisance dans l'extravagance que dans l'épurée. Un peu comme il avait fait avec l'album Seul au piano en 2011, il s'est prêté pour Paris Tristesse à l'exercice de se déshabiller des pans de son répertoire et de les exposer dans leur plus simple beauté. Dans la démarche immortalisée au studio CBE à Paris, et d'avoir paru en France. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma phrase, je recommence. La démarche immortalisée au studio de Paris, oui, et d'avoir paru en France, s'avère porteuse, ne serait-ce que pour réaffirmer les immenses qualités d'interprète de Pierre Lapointe. En prime, des reprises de Ferré, Barbara et Aznavour, ainsi qu'une pièce inédite de Lapointe, La plus belle des maisons, bien à sa place dans ce tableau ancré dans la mélodie, le spectacle est en magasin. Eh bien, il y a aussi Marie-Pierre Arthur qui, elle, n'est pas de celles qui aiment se répéter. Et ce troisième album le démontre avec éclat. Il ne reste plus rien que des racines folk de ses débuts sur l'album Si l'horreur, son nouvel album. Une collection de 10 chansons aux envies nostalgiques pleinement assumées, mais qui ne servent ici que de point de départ. Le tout se déploie dans des mélodies tout sauf formatées, qui n'hésitent pas à prendre des détours, l'immense parenthèse livrée par le saxophone de Yannick Rieu en offre certainement le meilleur exemple. C'est un environnement sensuel et audacieux sur mesure pour la voix souple de Marie-Pierre Arthur. L'album, c'est « Si l'aurore ».
En début d'émission, Charles, tu nous as posé une belle question philosophique, à savoir s'il y avait une justice culturelle.
Ouais.
Eh bien, j'ajouterais qu'en fait, la culture pourrait rendre justice à l'homme, puisque il y a Jean-Claude Labrec, le cinéaste, qui, lui, est philosophe sur son art, qui est le cinéma.
Mm-hmm.
C'est un article dans La Presse de mercredi dernier par André Duchesne, puisque Jean-Claude Labrec va recevoir un hommage des Rendez-vous du cinéma québécois demain à 15h au bistrot SAQ de la Cinémathèque québécoise. Et Jean-Claude Labrec dit que lui, le cinéma l'a aidé à apprendre à vivre. Au terme d'une entrevue fascinante, Jean-Claude Labrec répond à une question sans doute trop large en deux courtes phrases remplies de sagesse. On s'étonne un instant de cette réflexion plus philosophique que professorale. Mais Labrec s'empresse d'apporter un éclairage juste et dosé, digne du grand directeur photo qu'il est, à sa réponse revenant sur son parcours de jeunesse où, en dépit des écueils et des pièges, il a su prendre le bon chemin. À 17 ans, orphelin et vivant seul dans une chambre de la rue Laval à Québec, j'avais tout ce qu'il fallait pour devenir un vrai bum. Mais la photographie me touchait. Chaque jour, lorsqu'il se rendait à l'école, Labrec passait devant la façade de la boutique de photos Lefèvre et des Roches dans Limoilou. Les propriétaires changeaient la présentation deux fois par semaine. Un jour, je suis entrée en demandant s'ils avaient besoin d'un photographe. Ils m'ont répondu non, mais qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour envelopper et envoyer les photos. J'ai accepté. Petit à petit, ils m'ont tout montré. Ce fut mon école de base. Tout en faisant ses premières armes en photographiant des mariages, Labrec rêve d'entrer à l'ONF, ce qui survient au début des années 60. Il grimpe les échelons rapidement. En 1963, il est directeur photo du film « Un jeu si simple » de Gilles Proulx, un documentaire sur le hockey et le Canadien de Montréal. Depuis 5 décennies, ça ne s'est pas arrêté. Labrec a mis sa griffe sur plusieurs classiques du cinéma québécois à titre de directeur photo. Et puis, sur d'autres, oui, comme réalisateur, notamment la visite du général de Gaulle au Québec. Deux constantes jalonnent donc ce parcours. Il y a l'homme et l'histoire. Jean-Claude Labrec dit qu'il est très attaché à l'homme et qu'en même temps, il est en pâmoison devant l'histoire, surtout celle qu'on ne connaît pas. Cette ligne de pensée l'a amené à faire 3 films sur la nuit de la poésie. Quant aux individus, Labrec leur a consacré de nombreux documentaires. On pense notamment à Marie Huguet, Claude Gauvreau, Claude Léveillé, Félix Leclerc, André Mathieu et j'en passe. Filmer une tête de personnage, c'est comme photographier un pays. Jean-Claude Labrec, philosophe encore. Et puis la tête de Leclerc, celle de Marie Huguet, eh bien, ce sont des pays en soi. Critique envers lui-même, il lui arrive de terminer un projet en se disant qu'il aurait pu s'y prendre autrement, qu'il manque quelque chose, qu'il referait le montage, mais il sait en contrepartie reconnaître la valeur de ce qu'il a légué à ce jour au cinéma québécois. Donc, âgé de 76 ans, Jean-Claude, oui, se dit un peu gêné de cet hommage qu'il va recevoir demain, car il veut encore faire d'autres projets, mais il n'entend pas bouder son plaisir pour autant. Il a bien hâte de voir comment ça va se passer, dit-il, une lumière dans les yeux. C'est ton tour,
Oui, c'est à mon tour. Et puis, en début d'émission, je vous ai dit que le spectacle Victor Hugo, mon amour, serait présenté à Québec. Ben non, c'est faux. À moins qu'il soit en tournée, à moins qu'il parte en tournée.
Donc, on l'espère pour eux.
On leur souhaite tout le bonheur du monde. Non, j'avais le cerveau dans le jus de mon rhume, mais c'est Alexandre Cadieux dans Le Devoir qui nous en parle. C'est paru le 19 février. Correspondance exaltée. Il y a une certaine difficulté à faire théâtre d'une matière épistolaire, surtout lorsque la dite est correspondance bas d'une haute exaltation des sentiments. Dès lors qu'elle tient lieu de dialogue que l'on souhaiterait dramatique, il y a risque que l'interprétation ne fasse que redoubler cette frénésie affective, ce qui revient en partie à l'aplatir. Sur cette émotion, un brin triste que nous laisse la modeste production Victor Hugo, mon amour, présentement à l'affiche à la salle Fred Barry, on s'inspire de la relation entre l'auteur des Misérables et de sa maîtresse Juliette Drouet, la comédienne française Antéas Sogno a tiré les meilleures missives de Victor Hugo pour faire et de Victor Hugo et de sa maîtresse pour en faire la pièce de théâtre. C'est évidemment au Hugo lyrique et non à l'épique qu'on a affaire ici. En endossant sa veste, Sylvain Massé y fait toutefois preuve de mesure et de contenance, ce qui est heureux. Est-ce que cette économie ou le texte lui-même qui donne l'impression que l'écrivain joue ici les seconds violons, tant Juliette Drouet, personnifiée à l'origine par l'actrice adaptatrice du spectacle, semble davantage mise à l'avant? C'est la question que se pose l'auteur. Ainsi, paradoxalement, les deux grands instants où on atteint ici une grâce certaine demeurent en quelque sorte périphériques à la relation amoureuse elle-même. Il y a ce discours capital sur la misère qu'Hugo prononça devant l'Assemblée nationale en 1849, puis la lecture de cette lettre où une épouse Hugo, mourante, demande à ses enfants de traiter désormais la maîtresse de leur père avec déférence, celle-ci lui étant profonde source de joie. Meurtri l'abandonné avait vu que l'on tente si fort de nous rendre... la phrase fait pas de sens. L'abandonné avait vu ce qu'on tente si fort de nous rendre sur scène. Ah, voilà, c'est moi qui avais mal lu. Alors, ce spectacle est à la salle Fred Barry du théâtre Denis Pelletier jusqu'au 28 février.
Et je vous parlais d'eux en début d'émission, et Moon Shaker, c'est vraiment, vraiment fun, hein, ce mélange entre le beatbox et le blues, bah, voilà, ça donne ça. Là, c'était leur titre Cream FF Feeling. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Et si les Moon Shaker ont dû voyager pour s'inspirer, eh bien Claude Desrossiers, lui arrivait une petite aventure, enfin, c'est pas une aventure, mais plutôt un événement un peu plus tragique. Mais chaque artiste s'inspire comme il le peut pour créer. Et justement, lui, il crée pour survivre, parce qu'il y a 15 ans, le réalisateur Claude Desrossiers perdait son père dans un accident de la route. Et après, avec sa première mise en scène, le cinéaste aborde le sujet de façon artistique en donnant ses couleurs au récit d'un miraculé tentant d'exorciser ses démons par l'art. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le 24 heures. Débris, c'est d'abord une collision sanglante entre un autobus et un poids lourd. Deux passagers y survivent, l'artiste peintre Daniel, interprété par Maxime Dénommé, et LJ, une danseuse nue jouée par Evelyne Rompré. Dominique Laniel, Roger Larue et Mathieu Quesnel complètent la distribution. C'est un artiste qui souffre de la culpabilité du survivant et il essaie par l'art de se sortir de cette obsession. Son personnage crée tour à tour des peintures, une exposition de photos des victimes de l'accident, des performances d'automutilation, sans compter ses séances avec un psychiatre encore plus troublé que lui. Même si l'histoire découle d'un drame, c'est une comédie noire, soutient le metteur en scène Claude Desrossiers. Aux multiples expériences de Daniel s'ajoute le récit de sa relation avec LG. On suit cette histoire d'amour impossible. Comme mon personnage est complètement obsédé par l'accident, il n'y a pas d'espace pour une relation amoureuse. LG est très terre à terre et tente de me faire revenir sur terre, explique l'interprète de Daniel. Écrite par l'auteure irlandaise Ursula Rani Sarma, The Dark Things, qui a gagné de nombreux prix, a été traduite en français par Jean-Marc Dalpé. Ayant lui-même été touché de près par un accident de la route, Claude Desrossiers s'est servi de son expérience personnelle dans le cadre de sa mise en scène. Avant de mourir, mon père m'a dit que la pire chose, c'était le son de l'accident. Bien sûr, se faire frapper, ce n'est pas le fun, mais ce qu'il paraît, le son est horrible, se souvient-il. L'ambiance sonore de la pièce est donc surtout constituée de bruits de collision. Le public, quant à lui, se trouvera immergé dans l'action. La disposition de la grande licorne sera trafiquée, les gradins seront installés de part et d'autre de la scène qui, elle, telle une route, se trouvera au milieu. Je pense que les spectateurs vont avoir un choc concernant l'art et comme on vit et passe au travers d'un tel traumatisme. Donc je rappelle le nom de la pièce, c'est Débris, et ça se joue du 17 février au 28 mars au Théâtre La Licorne.
Ce que tu disais, Jennifer, à propos de Débris, ça me faisait penser au peintre Dumoutier. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un peintre qui a été influencé par les automatismes et son père était tombé et mort de ça, de sa chute, d'un grand pommier. Et le pommier a fait partie de ses œuvres pendant toute sa carrière, presque. Fait que il y a peut-être un lien étroit entre
ça. Oui, souvent.
Une source d'inspiration.
Oui, c'est ça, un traumatisme, des fois, ça...
Ça permet d'extérioriser un petit peu tout ça. Et du coup, chaque artiste présente ses œuvres à travers son histoire. Donc,
C'est vraiment intéressant.
C'est plus ou moins gay, ça dépend parfois.
Oui. Alors, Geneviève, on va en cinéma cette fois-ci, c'est ça?
On retourne en cinéma, oui. Un film d'hiver et d'anarchie. Justement, en début d'émission, je disais que j'allais parler de la neige. Eh bien là, c'est un film qui est présentement en tournage, un film de Louis Bélanger, et c'est Luc Boulanger qui en parle dans la presse de mercredi passé. Louis Boulanger avait depuis longtemps envie de faire un vrai film d'hiver au cœur de ce blanc pays qui est le nôtre. Or, depuis deux semaines, Bélanger tourne au pied des montagnes enneigées des Laurentides, dans le froid glacial et sous un soleil de cristal. Inutile de dire que le réalisateur est comblé malgré les engelures. En se rendant au tournage de son prochain film « Les mauvaises herbes » à Arundel, le long de la rivière Rouge glacée, le visiteur a comme un flashback d'un film de Gilles Carle. L'auteur fait référence au film « La mort d'un bûcheron ». Il y aura certes un peu de Carle dans ces paysages vastes et pittoresques, oui, ce décor à la Maria Chapdelaine qui semble figé dans le temps, mais il y aura aussi de Ettore Scola dans cette comédie à l'italienne qui a été co-scénarisée par le cinéaste Alexis Martin, qui fait aussi partie de la distribution avec les Gilles Renaud, Luc Picard, François Papineau et une recrue, Emmanuel Lucier Martinez, qu'on pourra voir sur les planches aux côtés de Guinadon à la Licorne en avril, parce qu'on mentionne qu'elle est nouvellement promue du conservatoire. Donc, l'histoire du film Les mauvaises herbes est assez rocambolesque. Un acteur de théâtre endetté est poursuivi par un usurier. Il doit fuir Montréal en catastrophe et dans sa fuite, il se retrouve dans une ferme isolée qui appartient à un ermite misanthrope. Petit détail, ce dernier cultive également 300 plants de cannabis dans sa grange, juste 300. Et en échange de refuge, les deux hommes vont dès lors collaborer. Puis, une jeune fille qui travaille pour Hydro-Nord deviendra leur otage volontaire. Donc, une fragile harmonie s'installe et viendra perturber l'éruption du monde extérieur. En fait, le projet de Louis Bélanger remonte à 4 ans, alors que Martin et Renaud tournaient Route 132 avec lui. Et en discutant avec Louis, on a convaincu d'écrire un film d'hiver qui explorerait la ruralité au Québec. C'est ce qu'explique Alexis Martin. Louis a une maison en campagne, il est familier avec la réalité rurale. Et le tournage a été difficile parce qu'il fait très froid, mais Louis est très présent et à l'écoute de ce que l'équipe propose. On sait où on s'en va avec lui et il est très précis dans ses notes. Il nous tient au courant de tout, des découpages et des plans. Donc, Les mauvaises herbes, c'est produit par Coop Vidéo et le film sort l'automne prochain, donc pour nous préparer à l'hiver 2016.
Avant de se laisser pour la pause, une petite nouvelle. Québec aura sa maison de la danse. Ça s'appelle La Rotonde. C'est une annonce qui a été faite cette semaine. Et puis, dans le fond, ça va être le centre, on dit, le pôle chorégraphique de la vieille capitale. Alors, c'est à suivre. On vous donne plus de nouvelles une fois que ça va être inauguré. Il va sûrement y avoir plein de spectacles. Donc, on se laisse le temps d'une courte pause. À tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
On reste en cinéma et dans les classiques. La semaine dernière, on parlait aussi de La Guerre des Tuques, de l'hiver. Et là, il y a un autre classique qui revient, Jennifer.
Et oui, effectivement, et c'est Astérix, parce que il nous fait un retour au sommet, et puis en 3D en plus. Après les films en prise de vue réelle, Astérix revient au grand écran en version animée avec Le Domaine des Dieux. Sous la houlette d'Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott, le héros d'Udrezzo et Goscinny s'offre une nouvelle jeunesse réjouissante. C'est Marie-Line Letête qui nous en parle dans le journal du métro du 19 février. Nouveau défi et pas des moindres pour Alexandre Astier. Sous la houlette de M6, la vedette ressuscite Astérix en 3D dans Le Domaine des Dieux, long métrage d'animation qu'il scénarise et co-réalise avec Louis Clichy. Un retour gagnant, drôle et soigné pour les héros d'Uderzo et Goscinny, dont l'esprit et le style sont en tout point respectés. Décryptage avec le créateur de Kaamelott, nouveau papa d'adoption du célèbre Gaulois. Astérix, c'est l'enfance. Je lisais les vieux albums de mon père chez ma grand-mère pendant les vacances. Je n'aurais jamais écrit Kaamelott comme je l'ai fait sans avoir lu Goscinny. C'est sans doute sous cette influence inconsciente que j'ai moi aussi mis en scène des personnages colériques, de mauvaise foi, avec un langage très français. À l'origine, on parlait d'Astérix en Hispanie, mais il fait partie de ces albums qui se lisent plus qu'ils ne se regardent. Moi, j'ai immédiatement pensé au Domaine des Dieux. Je voulais une dramaturgie à la Pixar, des risques et des enjeux cinématographiques et de multiples couches de lecture. Et cet album qui passe de l'absurde au superficiel, puis au grave, puis à l'intrinsèque, est d'une grande richesse. J'aime tellement l'œuvre originelle que je ne vois pas l'intérêt de s'en écarter. Il n'y a pas de cahier des charges avec Astérix, sauf celui d'adorer le travail d'Uderzo et de Goscinny, et de ne pas utiliser le bouquin comme un prétexte, mais comme la base de tout. Pour la touche personnelle, au cinéma, les personnages bougent et parlent. Les voix et l'animation, c'est ce qui fait notre patte, notre signature. Louis a la double culture. Il a bossé chez Pixar sur Up et Wall-E, notamment, mais il sort de l'école française des Gobelins de la 2D. Ça confère une vraie sensibilité à son travail qui, tout en s'adaptant aux techniques actuelles, est très respectueux du trait original. Grâce à lui et à nos acteurs, qui ont un grand champ d'expression sur ce film, on est en immersion totale. Avec cet alliage de 3D et d'artisanat, de modernité et de tradition, on est vraiment chez Astérix.
Mmh. petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse pop, le croque-mort, et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en bourgeois le vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Voilà. Une bonne journée, je y retourne avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en bicycle, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le McDonald's.
Voici Patrick Esposito du Napoli.
Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le motel est démoli. Ah, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais, ah! Une bonne journée, je y retourne avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer. Ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse-pop, le croque-mort, et le magasin général, là. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat.
C'était la rue principale des colocs, un autre classique. Mais là, on sort des villages québécois. On retourne à Montréal pour le Festival des arts souterrains. Un invité d'honneur bien spécial, Charles, pour ce festival.
Oui, c'est Israël qui est l'invité d'honneur sous le thème de la sécurité. Et c'est ainsi que ce titre, l'article que je vais vous lire, du Devoir, paru le 18 février, écrit par Caroline Montpetit. Selon Jean de La Fontaine, oui, Jean de La Fontaine, vous le connaissez, là, celui qui a écrit les fables. Le désir excessif de sécurité est l'adversaire d'une vraie liberté. Ah, quelle sagesse. En cette recherche de sécurité, cette recherche de sécurité est au cœur de la thématique du 7e Festival d'art contemporain, d'art souterrain, qui prend l'affiche du 28 février au 15 mars dans différents lieux de Montréal. Pour discuter de ce thème, le pays a invité Israël, qui sera représenté ici par de nombreux artistes d'art visuel et aussi par le commissaire Carmit Blumenschon. Celle-ci écrit d'ailleurs au sujet du festival « Dans la deuxième décennie du 19e siècle, ce besoin humain universel fondamental semble trop fragile. Les œuvres des artistes que j'ai choisi d'exposer à l'Art souterrain 2015 offrent une vaste aperçu de la sécurité personnelle, sociale et culturelle au-delà des frontières historiques. Cet aspect transpire d'origine humaine universelle, adoptant les mythes, traditions et rituels ancrés profondément dans la culture humaine. Parmi les installations qui seront considérées comme à ne pas manquer par les organisateurs du festival, on retrouve « À table » de Mélanie Desourties, qui permet aux visiteurs d'entrer dans l'intimité alimentaire de l'artiste et de sa famille au complexe de la gare centrale. Stanley Février propose pour sa part 1927 au complexe Guy Favreau. Une réflexion sur la sécurité dans les écoles, en particulier les écoles américaines. Malgré tout, le système de caméras de surveillance installé dans les écoles et un peu partout dans les grandes villes du monde, cela n'empêche pas que des individus armés qu'ils commettent des crimes de masse. Cette installation symbolise l'attentat de Bath Consolidated School qui a eu lieu le 18 mai 1927. Peut-on lire dans le descriptif de l'œuvre. Le festival compte également des visites de collections privées, des visites d'ateliers et de nombreuses rencontres d'artistes. Je le répète, c'est dans les souterrains de Montréal du 28 février au 15 mars.
Dans l'article que tu viens de lire, Charles, on parlait notamment d'intimité culinaire.
Bon, là, je te vois venir.
Oui, on me voit venir parce que c'est maintenant l'heure...
C'est la minute Geneviève.
C'est la minute Geneviève gastronomique gourmande.
À table, tout le monde.
À table, tout le monde, avec des chefs engagés. C'est un article d'Ève Dumas dans la presse de samedi dernier. Jeudi dernier, le chef Todd Gray de Washington a emprunté les fourneaux de son pote de longue date, Olivier Perret, au restaurant Renoir dans le Sofitel. Et ensemble, ils ont cuisiné un repas à six mains, puisqu'ils ont fait également de la place dans leur brigade à un jeune apprenti de l'entreprise sociale, la Tablée des chefs. Todd Gray a été sensibilisé à la cause des brigades culinaires de la Tablée des chefs l'automne dernier, à la faveur d'un court séjour au Québec. Il était chez nous dans le cadre d'un programme de diplomatie culinaire lancé par le gouvernement américain afin de favoriser un échange sur la saine alimentation chez les jeunes. Vous voyez, il n'y a pas seulement que les croustilles au chocolat. C'est un sujet chaud, notamment pour la première dame Michelle Obama, qui en ce moment, dans les écoles aux États-Unis, elle en a fait son mandat. L'événement a été organisé en partenariat avec la Tablée des chefs et a aussi lieu dans d'autres provinces. La visite du chef a pris la forme de conversations et d'échanges avec des adolescents et d'autres chefs pour convaincre les premiers de l'importance d'apprendre à se servir d'une poêle et d'un économe le plus tôt possible, puis les seconds de l'importance de mettre leur talent à contribution dans une société où encore trop de personnes mangent mal ou pire, ne mangent pas à leur faim. Un chef peut avoir un impact très concret sur la vie des gens. La nourriture est un élément tellement important de notre quotidien. Nous savons que personne n'est capable de bien fonctionner en état de sous-alimentation. Nous avons tant de nourriture et de techniques à notre portée. Alors pour moi, c'est tout naturel d'essayer d'en faire profiter ceux qui ont le moins de moyens. C'est ce qu'explique le chef américain. Et c'est si naturel, en fait, pour lui et sa femme, Hélène Kassoff-Gray, qu'ils se font régulièrement demander de participer. On parle par année d'une soixantaine d'événements bénéfices et souvent les choix sont déchirants. Nombreux sont les restaurants et les chefs qui participent maintenant à une foule de collègues de fonds. Il y a l'équipe du Joe Beef qui cuisine chaque année, notamment au repas de l'Ataxie de Charlevoix-Saguenay, qui est organisé par Toki pour venir en aide aux victimes de cette maladie et remet les sous à l'organisme bien géré du quartier. Olivier Perret du Renoir, lui, fait partie de la famille de la Tablée des chefs et se sent interpellé par les causes qui l'ont touché personnellement. La bouffe, c'est le plus bel instrument social pour rejoindre les jeunes, dit le fondateur de la Tablée des chefs, Jean-François Archambault, qui, depuis 2002, sent l'engouement croissant des jeunes pour la cuisine. L'agent et partenaire d'affaires du pâtissier Patrice Demers l'a constaté, puisqu'il y a environ 3500 jeunes qui se sont inscrits à VRAC TV, pour participer à l'émission Les desserts de Patrice, il y a deux ans. Maintenant que les jeunes s'intéressent davantage à la cuisine, Jean-François Archambault aimerait que, de son côté, la cuisine s'intéresse davantage aux jeunes. La faim et l'autonomie alimentaire devraient être les causes des chefs. C'est ce qu'il croit dur comme fer. Et au printemps, la Tablée va abriter d'ailleurs un portail intitulé « La Brigade des chefs » destiné aux professionnels de l'industrie qui cherchent à s'engager. En attendant, 8 chefs de la métropole ont accepté un jeune apprenti de la Tablée dans leur cuisine pour le Festival Montréal en Lumière. Alors là où la jeune cuistot va vivre l'expérience d'une vraie soirée derrière les fourneaux.
Wow.
Et oui, c'est vraiment exceptionnel comme expérience.
Ouais.
Très belle initiative, mm-hmm. oui. Et certains restaurants vont verser une partie des recettes à un organisme et d'autres vont recueillir aussi les dons volontaires des clients. Donc, c'est 8 soirées de la Tablée des chefs pour lutter contre l'insécurité alimentaire, oui, et ça se tient tout au long du festival Montréal en Lumière.
Puisqu'on parle du Festival Montréal en Lumière, et on parlait aussi également gastronomie, le Festival Montréal en Lumière est de retour pour une 16e édition avec une programmation alliant la culture, la gastronomie et des activités extérieures. Le journal 24 heures nous propose un petit état des lieux de ce qu'on va pouvoir y trouver. Cette année, le site extérieur du festival accueille 3 grandes nouveautés. Une tyrolienne de près de 600 pieds de long, un jardin de lumière et une petite glissoire adaptée aux enfants de 5 ans et moins. On retrouve un peu l'ADN du festival dans le nouveau jardin de lumière. Il y a de la bouffe, un bar et de l'animation. Je pense que ça va devenir un des poumons du site extérieur, affirme le vice-président de la programmation, Laurent Saulnier. Autre nouveauté cette année, les fins gourmets pourront échanger via le blog participatif Le Potluck. Donc c'est potluckmtl.com pour le site. Et la Suisse sera à l'honneur et va donner des couleurs à l'édition 2015 du festival. Plusieurs artistes et chefs de ce pays font partie de la programmation, dont les coprésidents d'honneur, le chef Pierre-André Ailleurs et l'auteur-compositeur-interprète Stéphane Escher. Alors, donc je disais qu'il y avait quelques activités à faire, quelques sorties, dont des concerts extérieurs qui sont gratuits. Pierre Quenders, la révélation 2014-2015 de Radio-Canada, sera sur la scène extérieure de Montréal en Lumière le 25 février prochain. Pour faire entendre ses compositions alliant la musique électro-world et le hip-hop. Donc, il sera présenté le 25 février à 20h. On pourra également écouter Ariane Moffat après avoir accueilli dans sa vie l'arrivée de Jumeaux, l'auteur compositrice-interprète, s'apprête à revenir au devant de la scène avec l'album 22h22 attendu pour le 10 mars prochain. Elle, on pourra l'entendre le 28 février à 21h10 sur la scène RBC. D'autres concerts gratuits, Congo, le groupe sud-africain derrière la chanson à succès Come With Me Now, sera en concert ce samedi. Également un hommage à Jacques Brel. En effet, plusieurs artistes prêteront leur voix au texte de Jacques Brel et seront accompagnés par le pianiste Benoît Sarrazin. Le spectacle mis en scène par Luc de La Rochelière est de retour à Montréal en Lumière après avoir connu un franc succès lors de la présentation en clôture de l'événement en 2012. Ça se déroulera le 25 février à 20h à la salle Wilfrid Pelletier. Ce soir, le 20 février, où il y a 21h30, les soirées mensuelles d'électro-swing du trio des DJ Eliazar, Don Metzcal et Khalil sont parfaites pour lâcher son fou sur la piste de danse. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme activité? Donc ça, c'était pour les concerts gratuits. Il va également avoir le Nouvel An chinois. Ce spectacle venu directement de Chine souligne le Nouvel An chinois en proposant des numéros de chant, d'équilibrisme, de la musique traditionnelle chinoise et de danse. Ce sera présenté le 27 et 28 février à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Il va également avoir un ciné-concert. Alors avec comme film choisi, c'est Gladiator. Donc en live, qui propose une expérience cinématographique unique. En effet, une projection du film Gladiator en version concert. La musique signée Hans Zimmer sera interprétée par 82 musiciens locaux, dirigée par le chef d'orchestre américain Justin Freer. Mettant en vedette Russell Crowe, Gladiator est le gagnant de 5 Oscars. C'est une expérience magique. La musique jouée en direct fait en sorte qu'on ressent, qu'on voit et qu'on entend le film comme jamais. Il y a une connexion viscérale qui s'établit entre le film et le spectateur. Donc ça, ça sera présenté le 21 février à 20h et le 22 février à 15h à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts également. Et puis Stéphane Echer, je le disais en intro, c'est l'artiste qui est à l'honneur vu que c'est la Suisse qui représente le festival Montréal en Lumière, voilà, pour cette année. Et enfin, la célèbre Nuit Blanche, je pense qu'on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. Elle sera présentée pour la nuit du 28 février.
Génial.
Amsterdam, qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandy aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le top fait danser mes scandales en format original.
C'était Geneviève à la chanson.
Geneviève en duo avec Ariane Moffat, puisqu'on revient à Montréal. Et puis, il n'y a pas seulement la cuisine là, qu'on peut faire avec nos jeunes adolescents. Il y a aussi des sorties en plein air, Charles.
Oui, c'est ça. Catherine Schlager, dans la presse, nous propose de vivre l'adrénaline avec nos ados. Donc, si vous n'avez pas assez de vivre le grand air à Montréal en lumière, qui se termine le 1er mars. Ben, le 1er mars, pour la plupart des ados, c'est la semaine de relâche qui commence. Ben, c'est peut-être une occasion de sortir, de prolonger l'expérience de l'hiver qui s'achève. C'est paru le 19 février dans la presse. Je vous lis trois de ces cinq propositions les plus audacieuses. Vous allez voir la première. Madame Schlager nous propose de dormir avec les loups, avec notre ado. Bon, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Girardville. Vos adolescents sont fascinés par les loups. Aventure Aid, fondée il y a 20 ans par le Français Gilles Granald et Marie-Christine Debaille, sera les combler. Dans le parc Manican, on peut observer 3 meutes de loups gris et arctiques, soit 37 loups, mais aussi dormir en leur compagnie. 4 gîtes, dont une yourte mongole et une tente de prospecteurs, accueillent les aventuriers qui pourront entendre les bêtes hurler et déambuler tout près. Bon, ben ceux qui ont pas peur, là. Ben,
les plus téméraires.
Ben oui, c'est ça. Puis pour ceux qui sont plus... qui préfèrent plutôt les sorties traditionnelles, là, disons, là, ben Madame Schlager nous propose d'aller glisser avec le Ziffy. C'est une sorte de traîneau, dans le fond, pour glisser. C'est dans les cantons de l'Est, dans le canton de Atlée. La glissade sur neige demeure une activité prisée par les adolescents, et c'est vrai. Ces derniers peuvent, depuis cet hiver, dévaler les pentes du mont Atlée, une ancienne station de ski alpin, assis sur leur Ziffy, cette mini-luge hivernale d'origine ontarienne. On bascule un peu vers l'arrière et les jambes s'élèvent naturellement. On freine avec les pieds tandis que la main à l'arrière contrôle la direction. Alors, c'est super ludique, mais ceux qui veulent utiliser les traditionnels trips, ils peuvent le faire aussi. On dit qu'il y a plein de voies pour s'élancer. Il y a aussi des voies réservées pour les tout-petits. Donc, l'adresse, je vous le donne, c'est le 4785 chemin Capelton, dans le canton de Atlée. Et puis finalement, ceux qui sont amoureux de défis, on les invite à Québec pour le Fort Brouillard. oui, c'est inspiré du Fort Boyard. Et ils devront affronter parfois le Père Fouraide au lieu du Père Foura. Alors, c'est 15 épreuves qui attendent les vaillants participants. C'est un parcours de 2 heures inspiré de Fort Boyard. Le but consiste à amasser les 15 clés afin d'accéder au trésor. Et ces activités-là sont renouvelées à tous les 6 mois. Donc, si vous voulez y retourner, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison de s'ennuyer. Et puis, je vous donne l'adresse. C'est le 100 rue Chabot à Québec. Donc, pour la relâche, réservez vos places. Ça a l'air que ça va être très prisé comme activité.
La semaine dernière, c'était la Saint-Valentin.
Oui.
Et il y a un constat, une semaine après la Saint-Valentin, c'est que les célibataires sont de plus en plus nombreux. Et rencontrer l'âme sœur, ça semble quand même de plus en plus difficile.
Oh non.
Du coup, le conférencier Marc Gervais a eu la brillante idée de partager avec le public le bonheur du célibat. Une conférence pour célibataires vous donne des conseils sur la vie solitaire et comment user de ce mode de vie pour se retrouver et être heureux. Marc Gervais aborde avec humour les relations toxiques, le lâcher-prise et l'amour de soi. Il affirme qu'il est primordial de se connaître et de s'aimer avant de commencer une relation à long terme. En fait, le célibat serait une période propice à ce cheminement. Écoutez, si vous êtes célibataire, eh bien ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis, la conférence est pour vous.
Ah, comme la neige allégée, écrivait Émile Nelligan, et mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, c'est ce que chante Gilles Vigneault, parce que le Québec et la neige sont indissociables, et c'est ce que veut montrer le musée Pointe-à-Calière dès maintenant, avec la version montréalaise de l'exposition itinérante Neige. Et c'est dans le journal Métro. Il y a 3 raisons, en fait, pour justifier le choix du musée Pointe-à-Calière de parler autant de la neige. Tout d'abord, la question identitaire. Cette exposition est une première du genre au Canada qui parle de nous, La neige nous ensevelit 5 ou 6 mois par année. Elle a forgé notre identité. C'est ce qu'explique Francine Lelièvre, directrice générale de Pointe-à-Calière. Donc, une réalité sympathique qui fait partie de notre culture. Les enfants l'adorent. Elle a inspiré les artistes, les sportifs s'en servent. On a une relation d'amour-haine avec elle. Voyage d'hiver, une saison en 4 zones. Allez voir cette expo-là. C'est jusqu'au 3 janvier 2016, donc l'année prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. Merci à Rémi, notre super metteur en ondes. Merci à Jennifer Vignery et Charles Roy qui ont co-animé avec moi aujourd'hui. Bonne fin de semaine, bon festival Montréal à Lumière.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bon week-end.